BW. Vue d'Allemagne.
Des Afghans et surtout des Afghanes en danger après la prise de pouvoir par les talibans. Dans ce numéro de Vue d'Allemagne, entretien avec l'eurodéputée Pierrette Erzberger-Fofana. Elle plaide pour un accueil des réfugiés afghans en Europe, mais aussi pour l'ouverture de canaux de communication avec les talibans. De réfugiés, il en sera également question en deuxième partie de ce magazine, avec un reportage dans le plus grand centre de rétention de France. Il est situé à Mayotte et les demandeurs d'asile y sont enfermés dans des conditions indignes. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touzé au micro. Willkommen et bienvenue. Depuis la prise de Kaboul par les talibans le 15 août dernier, l'Afghanistan fait la une de l'actualité internationale. Les pays occidentaux, qui étaient présents militairement dans le pays depuis presque 20 ans, ont été pris de court par l'offensive éclair des insurgés afghans avant même le retrait des derniers soldats américains le 31 août. Ces derniers jours, des vidéos montrant des scènes de panique à l'aéroport de Kaboul ont fait le tour du monde. Le retour des talibans au pouvoir laisse craindre le pire pour la population afghane, en particulier pour ceux qui ont collaboré de près ou de loin avec les forces internationales, mais aussi pour les femmes qui avaient pu acquérir des droits ces dernières décennies. En Europe, pourtant, on tergiverse sur l'accueil des réfugiés afghans. Pierrette Erzberger-Fofana est députée européenne et vice-présidente de la commission développement du Parlement européen. Elle a publié une tribune pour réclamer la solidarité de l'UE envers le peuple afghan. Une solidarité d'autant plus nécessaire après l'échec des pays occidentaux en Afghanistan.
C'est dit que les États membres n'ont pas réussi la mission qui leur a été assignée.
Alors qu'est-ce que vous réclamez de la part de l'Union européenne en plus de l'accueil des personnes donc, qui, sont, ont collaboré avec les forces
les
internationales?
Il va falloir surtout les répartir dans tous les États et exiger que tous les États prennent des réfugiés. Parce qu'il ne faut pas oublier que certains États ne veulent pas. Donc il faut la répartition équitable des réfugiés pour les pays, surtout pour tous les pays pour lesquels ils ont travaillé. Il me semble que ça doit être logique, ça. Si quelqu'un a travaillé pour vous et qu'il est dans le malheur, il me semble que vous devez après l'accueillir.
En Allemagne, on a une majorité de l'opinion qui est favorable à l'accueil.
Oui, en Allemagne, oui. En Allemagne, on doit dire qu'on a une majorité qui est favorable. Mais l'Allemagne ne peut pas prendre tous les réfugiés non plus.
C'est le pays européen qui accueille à l'heure actuelle le plus de réfugiés.
Le plus, oui, c'est l'Allemagne. Or, il y a 27 États et je pense que les 27 États peuvent accueillir les réfugiés.
Où est-ce qu'on en est en Europe à l'heure actuelle et quelles sont les chances de réussite pour l'accueil?
Dans l'état actuel, il n'y a que ce que j'ai écrit que l'on peut dire, c'est tout. Que l'Union européenne part du principe que l'Afghanistan est l'un des pays qui reçoit la plus grande aide humanitaire et que cette aide humanitaire, dans le cadre du développement, si elle doit continuer, elle doit se faire dans des cadres justes, réels. Parce que quand même, on ne peut pas donner de l'argent si on sait que les talibans ne vont pas respecter tous les droits humains. Il va falloir chercher de nouveaux canaux, c'est-à-dire il va falloir trouver comment parler, comment dialoguer avec les talibans.
Quels sont actuellement les moyens de l'Union européenne pour faire pression sur les talibans?
Moi, je pense que c'est plutôt faire appel aux talibans. Il me semble que si les talibans ont l'impression que l'Europe fait pression sur eux, ils risquent de se venger. Par exemple, justement, la question des femmes. Moi, je pense qu'il va y avoir des réactions dans ce domaine-là et que certains droits, surtout tous les droits, tout ce qui concerne les femmes, vont être plus ou moins, peut-être pas confisqués entièrement, mais réduits.
Alors, justement, la commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a parlé d'une ligne rouge à ne pas dépasser, et à appeler les talibans à respecter les droits des femmes et en particulier l'accès à l'éducation pour les filles.
Oui. Ça, par exemple, là, on pourrait faire pression. Mais qu'allons-nous faire s'ils disent oui, elles vont à l'école jusqu'à 16 ans? Moi, c'est de ça que j'ai plus peur, parce que je me dis, ils sont pas si bêtes que ça, c'est une nouvelle génération, il faut pas oublier. C'est quand même une génération Internet. On voit bien que le Taliban, maintenant, il accepte de faire son interview avec une journaliste qui n'est pas voilée. Il me semble qu'une fois que tout le monde sera parti, ils vont dire, oui, ok, on veut dialoguer avec vous, on veut avoir des rapports avec l'Union européenne, mais, comme ils le disent bien, dans les limites de la charia. Et maintenant, c'est comment ils vont interpréter cette charia. Ils peuvent l'interpréter que les femmes ne doivent plus sortir toutes seules, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise dans l'Union européenne? Ça va être difficile de faire quelque chose. Parce que, bon, sortir accompagné, évidemment, ça entrave la liberté. C'est grave, mais c'est pas aussi grave que, par exemple, les mariages forcés. Ou bien, ce que je crains le plus, parce qu'on en a très peu parlé, ce sont ces fameuses mutilations génitales féminines qui existent en Afghanistan.
Donc c'est pour ça que vous réclamez d'ouvrir des nouveaux canaux de communication?
Oui, c'est pour ça que je réclame, pour savoir exactement où est-ce qu'on va en arriver, quels sont ces canaux-là que l'on va ouvrir.
Mais à quoi ça ressemblerait,
afin que vraiment tous ces droits-là soient garantis.
Qu'est-ce que vous souhaitez concrètement de ces canaux de communication, comme vous les appelez?
Que les droits qui ont déjà été acquis par les femmes, comme l'instruction, comme de travailler, par exemple, qu'il y ait encore des femmes au Parlement. Alors, ce n'est pas l'impression que l'on a maintenant, qu'ils vont garder les 27% des femmes au Parlement, les femmes juges, qu'il y ait des femmes dans les postes de décision. Que ça, ce sont des acquis. Est-ce que ça, ils vont l'enlever?
C'était Pierrette Erzberger-Fofana, eurodéputée allemande du Parti écologiste. Ajoutons que les talibans ont multiplié ces derniers jours les assurances selon lesquelles les femmes seraient autorisées à retravailler, une fois la sécurité rétablie dans le pays. Vue d'Allemagne, deuxième partie. En France, les centres de rétention administrative, qu'on appelle généralement CRA, sont utilisés par l'administration pour retenir les personnes étrangères auxquelles la France ne reconnaît pas le droit d'asile, en attendant de les renvoyer dans leur pays d'origine. Le centre dans lequel nous nous rendons est le plus important du pays, mais il est situé loin de Paris et de l'Hexagone, à Mayotte, au milieu de l'océan Indien. C'est là qu'arrivent de nombreuses personnes migrantes, venues notamment des îles comoriennes voisines, de Madagascar ou de certains pays d'Afrique des Grands Lacs. Sur place, ces personnes et les associations dénoncent les conditions précaires et des droits bafoués. C'est un reportage de Cécile Massin.
Il est généralement peu de personnes qui connaissent l'existence des centres de rétention administrative, plus communément appelés CRA. Pourtant, ces établissements jouent un rôle clé dans la politique que mène la France vis-à-vis des personnes étrangères dans chaque département français. Ce sont en effet dans ces centres que sont enfermés sous haute surveillance les étrangers que l'administration considère comme étant en situation irrégulière et souhaite expulser vers leur pays d'origine. Sur l'île de Mayotte, où les flux migratoires sont particulièrement importants, ce sont plus d'une centaine de personnes qui sont chaque jour expulsées. Pour comprendre le fonctionnement de cet établissement aux portes bien gardées, je suis allée à la rencontre de Mathilde, qui a travaillé durant 10 mois au sein du CRA pour l'association Solidarité Mayotte, en charge de l'accès aux droits des personnes majeures retenues.
Un CRA, c'est un petit peu comme une prison. C'est un lieu qui est fermé, sauf que les personnes n'ont rien fait, elles ont juste pas de situation régulière, elles n'ont pas de papier, donc du coup, selon la loi, elles ne peuvent pas se maintenir sur le territoire. Alors, la plupart des personnes sont de nationalité comorienne, mais on a aussi beaucoup de personnes de nationalité malgache, et également, mais là, on est plus sur des demandeurs d'asile, du Burundi, Rwanda, des pays du continent africain, mais de manière plus ponctuelle.
Ben se souvient parfaitement de la première fois où il a été interpellé puis conduit au CRA.
En fait, je me suis levé le matin, je suis parti aux toilettes, en sortant, on m'a rattrapé et on m'a dit, monsieur au contrôle de papier, j'ai dit, ben moi, j'ai pas de papier, mais je suis né ici. On m'a dit, il est où ton extrait? Je lui ai donné mon extrait, il a dit, ben, ça c'est pas un carte d'identité, c'est un extrait, donc on n'a pas le choix, on te ramène avec nous. Vu qu'ils n'ont pas le mandat, ils n'ont pas le droit de rentrer chez moi, mais eux, ils ont rentré, ils ont forcé la porte. Mais quand j'étais en train de leur expliquer, ils m'ont dit qu'ils vont me gifler, bon, je fermais ma bouche, quoi.
Ce matin-là, Ben a donc suivi les forces de police jusqu'au CRA sans s'y opposer. Il en est allé de même pour Abdoul. Originaire du Burundi, il est arrivé à Mayotte dans une embarcation de fortune, que l'on appelle ici Kwasa Kwasa. Les passeurs ont déposé les passagers sur un petit îlot à quelques kilomètres au large de l'île de Mayotte.
C'était sur une îlot que la PAF nous en coffrait. Mais moi, je savais rien à quoi, parce que moi, c'était la première fois que je venais ici à Mayotte. Moi, je suis resté avec mon pote congolais, puis la police aux frontières nous a amenés ici. Après, on dit.
Là, Abdoul a pu échanger avec les juristes présents au sein du CRA.
Ils m'ont demandé ce qui s'était passé parce que j'avais la trouille, ils étaient effrayés. J'ai répondu ce que je pouvais, quoi, tu vois. Ils m'ont dit que j'ai le droit de venir ici à Solidarité Mayotte. Et puis Solidarité Mayotte va m'envoyer à la préfecture.
En théorie, toute personne déclarant vouloir faire une demande d'asile doit en effet pouvoir le faire. Elle pourra alors être entendue directement depuis le centre de rétention, ou bien être libérée afin de déposer son dossier de demande d'asile directement auprès des services de la préfecture de Mayotte. Félix, lui aussi originaire du Burundi, n'a pu faire ni l'un ni l'autre. Avec une dizaine de compatriotes originaires de l'Afrique des Grands Lacs, ils ont en effet été renvoyés aux Comores, dans la stupéfaction générale.
Normalement, on ne refoule pas, mais j'étais refoulé, quoi. Même les policiers, il y avait des policiers qui étaient dans des voitures, ils me disaient, mais toi, tu es africain? Je dis, je suis africain. Mais pourquoi on va te faire rentrer au Congo? Moi, je ne sais pas. Et puis, on m'a menotté, on m'a dit, pourquoi tu es venu ici? Il fallait rester chez toi, mais comme je sais mes droits, j'ai essayé de revendiquer parce qu'être demandé d'agir, c'est mon droit.
Au CRA de Mayotte, les droits des personnes retenues sont régulièrement bafoués, dénoncent les associations de défense des droits humains. Au même titre qu'il est illégal d'expulser un demandeur d'asile, il l'est tout autant d'expulser une personne mineure. Pourtant, Ben, après avoir été intercepté à son domicile par la PAF, a été renvoyé aux Comores alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de la majorité.
Ce jour-là, j'avais 17 ans, j'étais pas encore majeur, même si bientôt je serai majeur, mais j'avais 17 ans, ils ont pas le droit de m'envoyer là-bas, et ma petite sœur, elle avait 15 ans, l'autre, elle avait 16 ans.
Pour Mathilde de Solidarité Mayotte, cette situation s'explique notamment par le contexte très particulier du territoire mahorais.
À Mayotte, il y a une très très forte pression de la part de l'État et des forces de police sur les personnes étrangères, ce qui fait qu'il y a des interpellations quotidiennes. La plupart des personnes, elles restent 12 heures, et du coup, il y a beaucoup de personnes qui, aux yeux de la loi, sont protégées contre l'expulsion, et qui devraient du coup pouvoir être libérées, mais qui ne le sont pas, parce que nous, on n'a pas le temps de les voir, parce que tout va trop vite.
Et si tout va trop vite, selon Mathilde, c'est avant tout parce que la France ne se donne pas les moyens pour que cela se passe autrement.
Clairement, la France a une politique très défavorable auprès des personnes étrangères. Il n'y a rien qu'à voir la taille de notre bureau. On est dans un bureau de, je dirais, 9 mètres carrés, pour voir plus de 150 personnes. Donc il y a déjà une volonté, même dans la construction du centre de rétention, de mettre en difficulté les associations. On sent très bien que c'est vraiment le minimum légal qui est fait de la part de l'État. Et voilà, nous, on est vus un peu comme les ennemis qui font obstruction aux éloignements, parce que nous, on libère des personnes, alors que pour l'État, l'État voudrait les expulser.
À Mayotte, cette politique qui vise à éloigner un nombre toujours plus élevé de personnes étrangères depuis le centre de rétention administrative a des répercussions fortes sur leur vie quotidienne. C'est ce que déplore Pauline, salariée de l'association de défense des droits des étrangers, la CIMAD, ainsi que Mathilde. C'est aussi ce contre quoi les défenseurs des droits humains du territoire disent vouloir continuer à se battre.
Faire que les gens vivent dans la peur et dans la peur de se faire interpeller, dans la peur d'être contrôlé, ça c'est un truc qui est voulu. Hein. Je crois que c'était un des préfets il y a quelques années qui avait dit en fait nous ce qu'on veut c'est que les gens aient peur, qu'ils sortent dans la rue et qu'ils aient peur.
Cécile Massin, à Mayotte, pour la DW.
Et précisons qu'évidemment notre correspondante a contacté les services de l'État français à plusieurs reprises pour leur donner la possibilité de répondre sur toutes les questions soulevées par ce reportage, des demandes malheureusement restées sans réponse. Et c'est déjà la fin de ce magazine, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, merci aussi de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien, tchuss!